Merci d'écouter RFI, les dernières infos du monde. À Paris, il est 2h.
Mathis Limano.
La situation est plus calme dans certaines zones du pays, annonce ce samedi soir de l'état-major de l'armée ukrainienne après une attaque de drones dans le sud et des alertes aux missiles à Kiev. Plus tôt dans la journée, la Russie a décrété un cessez-le-feu unilatéral. Il doit durer jusqu'à dimanche soir. JD Vance poursuit sa visite en Italie. Après la première ministre Giorgia Meloni, le vice-président américain a été reçu au Vatican. Aucune rencontre avec le pape n'est pour le moment prévue. JD Vance au Vatican, un coup de com', on y vient dans le journal. Et puis imaginez des robots courir un semi-marathon. Ça s'est vraiment passé, c'était en Chine. Explication en fin d'édition. Un cessez-le-feu le temps du week-end de Pâques, donc. Il a été ordonné dans l'après-midi par Vladimir Poutine. Mais du côté de Kiev, on reste prudent après cette annonce. L'Ukraine rappelle qu'elle est prête à respecter tout arrêt des combats si son agresseur fait de même. À Kiev, correspondance d'Emmanuel Chaz.
30 heures de cessez-le-feu sont suffisantes pour faire les gros titres, mais pas pour des mesures qui permettent de mettre en place la confiance. Ce sont avec ces mots que Volodymyr Zelensky a proposé un cessez-le-feu d'au moins 30 jours, en réponse à l'annonce unilatérale russe d'un cessez-le-feu le temps du week-end de Pâques. Un cessez-le-feu bien temporaire, censé débuter à 18h, heure locale ce samedi, et finir à minuit le 21 avril. Du côté de la présidence ukrainienne, on précise que Kiev est prête à respecter un arrêt des combats, si la Russie est sérieuse à ce propos, mais que l'Ukraine répondra si cet accord est violé. Une réponse donc prudente côté ukrainien où on est habitué à ce genre de sortie côté russe et surtout à la violation des accords conclus entre les deux pays. Face à l'emballement qui fait suite aux propos de Vladimir Poutine, et puisqu'aucun signe d'apaisement n'est parvenu de la ligne de front et que les sirènes ont retenti plusieurs fois au-dessus de la capitale ukrainienne, annonçant la présence de drones russes, l'Ukraine est sceptique mais montre qu'elle est prête à considérer un arrêt des combats si son agresseur en fait réellement de même. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Des alertes aux missiles ont retenti dans l'est de l'Ukraine. Les combats se poursuivent et les attaques russes continuent, a déclaré le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, qui admet toutefois que la situation est plus calme dans certaines zones. L'Ukraine et la Russie qui se sont échangés 246 prisonniers de guerre chacun ce samedi, dont des militaires blessés nécessitant des soins d'urgence. L'échange de prisonniers de guerre reste l'un des derniers domaines de coopération entre les deux pays. Les négociations avancent entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Les deux parties étaient réunies ce samedi pour échanger sur le programme nucléaire de l'Iran. Téhéran et Washington cherchent un accord qui assurera un Iran sans armes nucléaires et sans sanctions. C'est ce que rapportent les autorités d'Oman qui assurent la médiation. C'est d'ailleurs dans le sultanat que les discussions doivent reprendre samedi prochain. Lui est en Italie, le vice-président américain JD Vance. Il a rencontré hier la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Samedi, c'était au tour du numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, de s'entretenir avec JD Vance. Près de 2 heures qui ont permis d'aborder la situation internationale, en particulier dans les pays marqués par la guerre, selon un communiqué du Vatican. Si JD Vance n'a pour le moment toujours pas rencontré officiellement le pape François, sa visite au Vatican ressemble à une opération de communication pour Bénédicte Chenin-Nippon, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste des États-Unis à l'université Aix-Marseille.
D'abord, il venait voir Madame Meloni et il en a profité pour passer le week-end de Pâques, j'allais dire de manière ostensible, à faire ses dévotions de croyants catholiques et pratiquants. Donc, c'est évidemment, il me semble, une opération de communication pour montrer aux catholiques américains qu'il est au cœur de la maison et que tout va bien entre lui et la tête de l'Église catholique, puisque il y a très concrètement des oppositions. Le cardinal Parolin a, le jour même où JD Vance est arrivé à Rome, laissé une interview dans le journal La Repubblica où il expliquait que il y avait un nombre conséquent de questions géopolitiques sur lesquelles le Vatican était aux antipodes des États-Unis.
Jedi Vance espère toujours rencontrer le pape ce dimanche en marge de la messe de Pâques, bien que cette rencontre n'ait pas été évoquée par le Saint-Siège. Et parmi les vives critiques du Vatican envers l'administration Trump figure la politique anti-immigration des États-Unis, politique retoquée ce samedi par la Cour suprême qui a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'expulsion d'un nouveau groupe de migrants vénézuéliens. Expulsion en vertu d'une loi datant du XVIIIe siècle portant sur les ennemis étrangers. Dans un recours adressé au juge, le gouvernement américain enjoint la Cour à revenir sur sa décision, le cas contraire à l'autoriser à poursuivre les expulsions sur d'autres bases juridiques. Face à la montée des critiques, Benjamin Netanyahou a tenu un discours dans la soirée. Le premier ministre israélien a promis de ramener les otages sans céder au diktat du Hamas, affirmant que la guerre est dans une phase décisive. La réaction après ce discours de la principale association de familles d'otages, elle réclame un accord. Netanyahou n'a aucun plan, il y a une solution claire, même si cela implique l'arrêt des combats. D'après les secours, 54 personnes ont été tuées samedi dans la bande de Gaza. Le bilan pourrait encore grimper en raison des frappes qui se poursuivent, indique la défense civile. Enfin, au Nigeria, le bilan d'une attaque armée revue à la hausse. Au moins 56 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans des affrontements. Ça s'est passé dans l'état central de Benue, indiquent les autorités. Des affrontements entre éleveurs avec, en toile de fond, des tensions religieuses et ethniques.
RFI, la radio du monde.
Et la culture pour tous. Ce samedi marquait le coup d'envoi de la plus grande collecte de livres de France. Comme chaque année, pendant près d'un mois, l'ONG Bibliothèque sans frontières collecte des centaines de milliers de livres. Ils seront ensuite acheminés partout dans le monde. Ambre Cerny de l'ONG Bibliothèque sans frontières.
On intervient dans une trentaine de pays à l'international, dans trois contextes, on pourrait dire, des contextes d'urgence. Par exemple, après une catastrophe naturelle comme au Maroc, juste après le séisme, ou en Ukraine, on intervient auprès des familles qui sont déplacées par la guerre, dans des camps de réfugiés. Par exemple, au Bangladesh, c'est le plus grand camp de réfugiés au monde, et là-bas, on a installé des bibliothèques. Et après, on a des interventions qui sont plus, on va dire, en soutien au développement de certains pays, au Sénégal, ou par exemple en Côte d'Ivoire, ou au Liban. Et là, je le disais, en France, où on est dans une logique de réduction des inégalités accès à la connaissance au sens large. Donc oui, les livres vont voyager pour ceux voilà, qui répondent aux besoins en termes de langue. On n'envoie évidemment jamais des livres dans des langues, par exemple, que les populations locales ne vont pas parler. Ça n'aurait aucun sens. Mais donc tous ceux qui répondent aux besoins des bénéficiaires finaux sont envoyés. Et sinon, on se procure des livres neufs sur les marchés locaux pour avoir les bonnes langues, les thématiques qui correspondent à l'objectif des projets qu'on va mettre en place.
À propos recueilli par Sylvie Coffi, la collecte de Bibliothèques sans frontières se poursuit jusqu'au 11 mai. Et puis, il ne risquait pas d'avoir des crampes. Ce samedi, des robots ont couru un semi-marathon. Ça s'est passé en Chine. Aux côtés de vrais sportifs, en chair et en os, une vingtaine de robots humanoïdes ont parcouru les rues de Pékin, comme une vitrine pour le pays qui veut devenir leader en matière d'IA et de robotique. Grégoire Motte.
Près d'une heure 40 après le vainqueur, un coureur un peu particulier déchire la banderole de la ligne d'arrivée. Tiangong Ultra, c'est son nom, est un robot humanoïde. Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on voit cet automate de métal et de plastique noir avec un dossard orange sur le dos acclamé par le public chinois. Il vient de boucler un semi-marathon d'un nouveau genre. 21 km de parcours pour tester 21 robots de taille et corpulence différentes avec des fortunes diverses. Accompagnés par leur concepteur tous chinois, certains robots ont évolué avec confiance quand d'autres se sont montrés plus hésitants. Sur des vidéos, on voit un petit androïde chuter avant de se relever, un autre dévie de sa trajectoire et percute une barrière. L'objectif pour les ingénieurs, c'est de tester les performances et la fiabilité de leur machine. Mission réussie selon les organisateurs qui voient dans cette course une vitrine des avancées de la Chine en la matière. La Chine qui cherche à devenir un leader mondial dans l'intelligence artificielle et la robotique.
Grégoire Motte, il n'y avait pas de robots sur le terrain à Marseille. Cela n'a pas empêché les Olympiens d'infliger un sévère 5-1 à Montpellier. Marseille reprend ainsi la deuxième place de Ligue 1 pour Montpellier. La relégation s'approche dangereusement après cette 11e défaite consécutive. Et puis en Allemagne, record battu en Bundesliga, le championnat de foot allemand. 8 buts inscrits en une seule mi-temps, ça n'était jamais arrivé. Score à la pause 4-4 entre Berlin et Stuttgart. La seconde période a été moins prolifique avec 0 but. Score final 4-4. Maintenant, c'est la marche du monde sur RFI. Il est presque 2h10. L'histoire de nos sociétés contemporaines sur les 5 continents. Des témoignages, mais aussi des archives radiophoniques et musicales. C'est tout de suite sur RFI. La marche du monde.